nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un petit diable, Berrichon, un petit quémandeux, un gentil et doux enfant, mais qui trouble celui qui n'a pas la conscience tranquille. Nous sommes dans un mélodrame. Un mélodrame, mais en bonne compagnie. Rien n'est outré. On nous le dit. Le mélodrame n'est pas assez violent pour la fille de Margot, mais largement suffisant pour les beaux messieurs, les belles dames du Second Empire. Et il est signé George Sand. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 8 septembre 1961.
Prions d'écouter les grands rôles du répertoire mélodramatique français. Une émission de Pierre Descaves. Aujourd'hui, les beaux messieurs du Bois Doré, d'après Georges Sand. Avec la participation de Philippe Lodenbach, Jacques Castelot, Pierre Delbon, Edith Lauria, Jean-François Calvé et Raymond Girard. Collaboration artistique Blanche Ariel. Réalisation Olivier Doré.
Le célèbre roman de George Sand, « Les beaux messieurs du Bois Doré », avait été publié en 1857. Il avait eu son heure de célébrité, puis, comme beaucoup de bons romans, il était tombé dans une sorte de sommeil. L'adroit Paul Meurice avait flairé qu'on pouvait en tirer une pièce. Il obtint l'autorisation de l'auteur, se mit au travail, et fin 1861, le mélodrame était prêt et fut sur le champ envoyé en lecture. Le théâtre de l'Ambigu le reçut et le monta aussitôt.
Bien qu'il eût serré le plus près possible le roman de George Sand, Paul Meurice avait été obligé de faire quelques entorses au beau messieurs le Bois Doré.
Le drame a deux thèmes principaux, une reconnaissance et un autre élément violent, la jalousie. Madame Blanche Ariel va présenter la pièce et quelques scènes.
La pièce se passe sous le règne de Louis XIII. Au premier acte, à Damas, un tendre du marquis de Bois Doré surveille les jardiniers qui décorent le parc, car son maître attend M. de Beuvre et sa fille, la ravissante Lauriane, qui doivent séjourner une huitaine de jours chez lui. Sont invités également les prétendants à l'amas de Lauriane de Beuvre. Celle-ci, sous risque de perdre une énorme fortune, devra avoir fait son choix le jour du départ. Mais deux seigneurs arrivent à cheval, ce sont le comte d'Alvimar et Guillaume d'Ars. Vous allez entendre une première scène avec Jacques Castelot qui sera d'Alvimar, Pierre Delbon, Guillaume d'Ars, Philippe Lodenbach, Adamas, Edith Lauria, Mario, et Jean-François Calvé, Jovelin.
Allons, c'est un mauvais présage, vous dis-je.
Mon cher Dalvimar, cet enfant pouvait être tout simplement ébloui par nos beaux habits.
Trop ébloui, Guillaume. Vous avez vu l'autre mécréant qui s'est tout à coup dressé derrière lui?
Celui-là avait la mine d'un prince. Adamas. Bonjour, Adamas. Comment se porte mon cher cousin Bois Doré?
À merveille, monsieur d'Ars. Mais pardon, qu'est-ce que j'entends? Auriez-vous fait en venant quelques fâcheuses rencontres?
Non, Adama, c'était un petit mendiant, je crois. Et cependant, quand j'ai jeté à cet enfant une pièce de monnaie, il ne l'a pas ramassée. Mais il s'est mis à courir auprès du cheval de Dalvimar, en regardant fixement et avidement mon ami, comme s'il eût voulu le reconnaître à jamais.
Et j'avais beau le chasser de la parole et du geste, car je n'aime pas les enfants, les effrontés. Il s'obstinait à courir jusque sous le poitrail de mon cheval, au risque d'être écrasé 20 fois. Et ses yeux perçants, toujours rivés à mon visage.
Jusqu'à ce qu'enfin, si un compagnon, voyant le péril, se soit élancé, il est entraîné, résistant encore.
Alors vos seigneuries jugent inutile qu'on fasse rechercher ces gens?
Ah, certes. Je n'ai nulle envie de les revoir. Laissons cela de grâce.
Oui, monsieur. Mais vos seigneuries daigneront-elles en attendant venir se reposer au château? Monsieur de Bois Doré, qui achève sa toilette, sera charmé de les recevoir.
Et moi, j'ai hâte de lui serrer la main. Venez-vous, Dalvimar?
Ah, je ne sais pas pourquoi je recule et j'hésite. On ne va pas sous mon nom de Dalvimar deviner mon nom de Sciara.
Il n'y a pas à dire, cher comte, vous éprouvez une véritable répugnance à devenir l'hôte de cet excellent marquis.
Ah non, certes. Mais je me dis que Monsieur Boisdoré ne me connaît pas même de nom.
Oh, pour le comte d'Alvimar, voilà une belle raison. Et pourtant, avez-vous résisté assez à Monsieur de Beuvre quand il a tenu à vous amener ici? Depuis plus de 3 mois, il avait promis et juré à son vieux camarade Boisdoré que les fiançailles de sa fille ne s'accompliraient pas ailleurs que dans ce château de Briante. Vous avez donc été forcé, bon gré, mal gré, de l'y suivre. Mais vive Dieu, pour triompher de vos obstinés refus, il n'a pas fallu moins que la violence de votre amour.
Un amour violent, c'est vrai, Guillaume. Et qui passerait par-dessus bien d'autres obstacles. D'ailleurs, je ne l'ai caché ni à vous, mon généreux rival, ni à Monsieur de Beuvre lui-même. Cet amour, s'il était accepté, ne serait pas seulement pour moi le bonheur. Ce serait le salut. J'ai été riche, Guillaume. Mais j'ai follement dissipé l'héritage de ma mère. Une alliance avec la maison de Beuvre relèverait ma fortune.
Prenez garde, mon timide rival. Elle vous ferait aussi le commensal forcé et presque le parent de Boisdoré. Car on peut dire que par l'amitié, les deux familles n'en font qu'une.
Oh, je ne suis pas si effrayé de me lier à lui, de le lier à moi.
Au contraire.
Eh bien, alors reprenez donc cette aisance supérieure que j'admirais tant à Paris et à Bourges. La rencontre d'un petit quémandeux vous trouble.
Trouble?
Oui, car si vous aviez gardé votre sang-froid, il eût été piquant de savoir pourquoi diable un petit bohémien berrichon vous contemplait avec cette frénésie. Tiens, ah, pardieu, je crois que je vais en avoir le cœur net. Cette fois, petit fuyard, tu ne t'échapperas pas.
Encore ce maudit enfant.
Mais je ne cherche pas à m'échapper, monseigneur. Je suis venu volontairement.
Oh, Guillaume, laissez ce drôle.
Non! Non, non, je veux en tirer pied ou elle. Tu viens volontairement, petit? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'as-tu à dévorer des yeux, ce gentilhomme?
Je voudrais savoir son nom.
Pourquoi faire?
Pour pouvoir parler de lui au bon Dieu quand je le prie.
Oh, il n'est pas besoin de le nommer. Dieu connaît nos noms comme nos cœurs.
Oui. Heureusement, il connaît tout. Mais par grâce... Daignez me dire...
Allons, Guillaume, répondez donc à ces questions.
Non, il faut d'abord qu'il réponde aux miennes. Pourquoi nous suit-il tout haletant et tout frémissant? Pourquoi?
Je me figure avoir rencontré déjà ce gentilhomme. Et il faut absolument que je m'assure si c'est lui ou non.
Ah, pour le coup, assez! La patience m'échappe. Je ne suis pas le maître dans ce château, mais j'y suis l'hôte. Et je t'en chasse, vipère! Allez, hors d'ici! Petit espion, hors d'ici!
Ah non, 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 monsieur, soyez sans crainte. J'accompagne cet enfant que j'ai promis de conduire à Paris. À votre vue, il paraît qu'il a été frappé d'un souvenir. Et par deux fois, elle m'a glissé des mains pour courir après vous et vous mieux regarder. Je vous trouve le chassant et le malmenant, et tout hors de vous, et je vous dis simplement de ne rien craindre. Nous sommes d'humbles pèlerins qui achevons péniblement un long voyage, non en demandant l'aumône, mais en gagnant comme nous pouvons notre pain. L'autre jour à Lyon, des musiciens que nous avons rencontrés nous ont dit qu'ils étaient attendus dans ce château pour des fêtes qui allaient y avoir lieu, et ils nous ont demandé de les y rejoindre, car j'ai quelques connaissances des instruments et des voix, et Mario, mon petit compagnon, chante agréablement. Le hasard a voulu que nous arrivions ici en même temps que vos seigneuries. Mais il est certain aussi, monsieur, que la vue de Mario vous a troublé plus que de raison, et que vous avez paru plus inquiété de son regard innocent et qu'il n'a paru intimidé de votre regard furieux.
Oh, c'est trop d'audace! Allez, allez, décampez, vagabond, ou bien...
Alvimar! Vous n'auriez pas maltraité ces pauvres meurs de faim.
Et qui m'en empêcherait?
Partez. Vous voyez qu'il n'est pas maître de lui.
Je le vois en effet, monsieur, et je pars. Et si j'étais seul, je ne ferais que sourire. Mais cet enfant est depuis le matin à jeun et en marche.
Prenez cette bourse.
Oh, vous pensez bien que je n'accepte pas votre argent. Allons, mon petit Mario. On nous met à la porte. Il n'y a pas à dire. Un peu de courage et en route. Nous trouverons bien quelques gîtes plus hospitaliers. Monsieur, je vous prie seulement de faire dire au chef des musiciens que Jovelin, sur lequel il comptait, ne pourra venir et que ce n'est pas absolument sa faute. Je vous salue. En route, petit regardeur indiscret, et appuie-toi sur moi. Aussi, voilà ce que c'est. Pourquoi as-tu l'air si terrible?
Après leur départ, d'Alvimar s'excuse auprès de Guillaume de sa nervosité. Ce dernier lui recommande de ne pas parler de l'incident devant le marquis de Boisdoré, dont le renom d'hospitalité est bien connu. Il lui conseille aussi de ne pas le considérer comme un vieillard, car s'il a 70 ans, il veut en paraître 30. Mais le marquis arrive, suivi de peu par Lauriane de Beuvre, accompagnée par Mario et Jovelin. Elle a trouvé l'enfant évanoui sur la route et Jovelin appelant au secours. Lauriane demande au marquis de bien vouloir les accueillir durant son séjour et celui-ci accepte. Au deuxième acte, Jovelin et Mario sont seuls dans une salle du château. Mario dit à son ami son horreur pour Dalvimar. Il espère bien que ce n'est pas lui que Lauriane choisira pour époux. D'autre part, on se rend compte que Jovelin, qui sous son apparence de vagabond a l'air d'un seigneur déguisé, est lui aussi amoureux de Lauriane. Il quitte la pièce et peu après, le marquis de Bois Doré et son intendant Adamas arrivent. Le marquis vient de se livrer à un assaut d'armes avec Dalvimar et ce dernier l'a traîtreusement malmené. Adamas répare le désordre de sa toilette lorsqu'on frappe à la porte. C'est Mario. Vous allez entendre cette scène avec Raymond Girard dans le rôle du marquis.
Approchez, Mario. Que souhaitez-vous donc si impatiemment de nous?
Monsieur, je comptais ce matin à Madame Lauriane comment dans mon enfance j'avais appris à dire la bonne aventure à la mode égyptienne. Là-dessus, Madame Lauriane m'a demandé si je pourrais, cet après-midi, lui donner ce spectacle et consulter le sort pour elle. Et pour les autres personnes qui le souhaiteraient. Le tout, bien entendu, avec votre permission. Et c'est cette permission que je venais chercher.
Je te la donne, mon petit sorcier. À une condition, cependant. C'est que ta bonne aventure ne sera offensante pour aucun de mes hôtes.
Oh, ce n'est pas moi qui parlerai, c'est la destinée.
La destinée, soit, mais enfin, si ces arrêts devaient blesser quelqu'un, tu aurais soin de garder le silence.
C'est bien, monsieur. Vous serez obéi.
Tu es un doux et gentil enfant, Mario. Je m'intéresse à toi, pauvre petit orphelin. Tu t'en vas présentement à Paris sous la conduite de Maître Jovelin. Eh bien, si au retour tu veux venir et demeurer avec moi, je te promets de t'achever une éducation de gentilhomme. Mais d'abord, réponds bien sincèrement à mes questions.
Oh oui, bien sincèrement.
Voilà une figure qui n'est pas faite pour tromper, Adamas. Et un regard d'enfant qui va droit au cœur. Il n'y a pas longtemps, je crois, que tu connais Jovelin.
Non, monsieur. Il n'y a que 3 mois. Mais le temps n'y fait rien. Je l'aime de tout mon cœur. Oh, il est si bon, si grand, si savant. Et il ne me traite pas du tout en enfant. C'est mon ami. Je l'admire.
Bien. Mais ce n'est pas lui, j'imagine, qui t'a appris à dire la bonne aventure. Aurais-tu, dans ta vie abandonnée, connu de ces bohémiens, de ces mauvais gens?
Oh non, Dieu merci. Celle qui m'a montré à tirer les cartes, c'est une pauvre vieille mauresque réfugiée d'Espagne, qui était bien malheureuse, mais bien honnête, et qui m'aimait comme son enfant. Je suis restée 3 ans avec elle. Elle m'a appris aussi à jouer du tympanon et à faire des paniers d'osier. Oh, je sais très bien les faire. Et si je reviens ici pour être gentilhomme, je vous ferai tous les paniers de la maison.
Et quand l'as-tu quittée, cette pauvre bonne femme?
C'est elle qui m'a quittée, monsieur, pour mourir. Oh. Mais alors j'ai été recueillie par monsieur Enjerin, où il y a un pasteur protestant du Dauphiné, chez qui j'ai demeuré 4 ans. Oh, voilà encore un homme du bon Dieu. Il était vieux et obligé de se cacher, et pauvre. Mais aussitôt qu'il avait une piécette, il l'a donné aux autres pauvres. Une nuit de cet hiver, il est sorti dans la neige pour secourir des enfants égarés. Oui, car chez nous, il y a de la neige quelquefois, aussi haut que votre maison. Il a sauvé les enfants, mais il est tombé malade. Et tout à coup, il est mort. Oh, j'ai tant pleuré que je ne sais pas comment j'ai encore des yeux pour y voir clair. Avant de mourir, il m'a confié à Jovelin, son ami, et il nous a remis tout ce qui pourra me servir à retrouver ma famille. Avec une lettre d'explication sur mon histoire pour Monsieur de Luynes. C'est cette lettre-là que nous allons porter à Paris.
Ta famille? Et ainsi, Mario, tu aurais connu tes parents?
Certainement, monsieur. J'ai connu mon père et ma mère.
Tu sais leur nom?
Je sais que ma mère s'appelait Maria et qu'on m'appelait Mario, voilà tout. Quand j'étais avec mes parents, je pense qu'ils voyageaient et qu'ils changeaient très souvent de résidence. Et personne ne les nommait devant moi. Je me rappelle avoir entendu, un soir qu'on me croyait endormie, ma mère dire à mon père: « Pauvre petit, il ne sait seulement pas qu'il a une famille. » Et mon père a répondu: « Il faudrait donc lui faire comprendre comme les hommes sont cruels pour l'amour et que ses parents ont été maudits par leurs propres parents. »
Ton père a dit ces paroles-là, Mario? Tu les as entendues? Tu te les rappelles?
Oh, comme si j'y étais.
Oh, mon Dieu.
Monsieur... Monsieur, ce que vous disiez...
Oh, tais-toi. Tais-toi, il serait trop cruel de leurrer ce pauvre enfant d'une fausse espérance. Voyons. Voyons, dis-moi, Mario. Dis-moi, quand Et comment les as-tu donc perdus, tes parents?
Oh, c'est là le plus terrible, monsieur. Savez-vous où la mauresque m'a trouvée? Dans un chemin désert, à côté de ma mère évanouie. Oh. Et elle est morte le lendemain dans le délire, cette pauvre mère. À 100 pas de là, mon père venait d'être assassiné en duel.
Tué en duel, veux-tu dire?
Non, je dis bien assassiné. J'étais là, moi. Petit enfant, j'ai tout vu. J'étais témoin, le seul témoin. Dans le combat, l'épée de mon père s'est cassée. Il l'a crié à son adversaire. Mais cet infâme, jetant son épée, a subitement tiré son poignard et en a frappé mon père de 2 coups mortels. Je criais tout éploré, le meurtrier s'est enfui. Même il a laissé le poignard dans la plaie. Et je l'ai encore ce poignard. Mon père m'a dit, tu as vu, j'étais désarmée. Il m'a assassinée. Tu as vu, souviens-toi. Et il a rendu l'âme. Ah oui, père, je me suis souvenue. Je me souviens. Elle est là, vivante, l'affreuse image. Je vois la place, le rocher, le corps sur la mousse.
Et le meurtrier?
Le meurtrier aussi. Le meurtrier aussi, je le vois. Et il me semble toujours que je le reconnaîtrai. Et même, il m'a semblé... Ah oui, il m'a semblé que je le reconnaissais.
Dieu juste, et qui serait-ce?
Qui? Oh... Oh, pardon, monsieur, mais chez vous, à vous, pardon, je ne peux pas le dire. D'ailleurs, Jovelin croit que je me trompe. Ah, mais je le saurai si je me trompe.
Pauvre petit. Mais quel âge avais-tu quand le malheur est arrivé?
Je devais avoir 7 ans, car je dois bien en avoir 14.
Il y aurait 7 ans, alors? 7 ans?
Oui, monsieur. C'était en 1610.
En 1610,
l'année où monsieur le marquis a perdu son frère.
Silence, oh silence. Et où se passait le duel, enfin le meurtre? En Italie peut-être?
Non, monsieur. À Urdos, dans les Pyrénées.
Ah. Mais tu sais le mois, le jour?
Oui.
Et c'était, parle vite.
C'était 4 jours avant la mort du roi Henri. C'était le 10 mai.
Le 10 mai? Oh, tu es sûr, Mario, que c'était le 10 mai? Tu es sûr que c'était ce jour-là et non un autre? Tu en es bien sûr?
Tout à fait sûr. La mauresque me l'a répété et me l'a fait répéter 100 fois. 4 jours avant la mort du roi Henri, le 10 mai.
Hélas.
Eh bien, monsieur.
Eh bien, mon pauvre Adamas. La dernière lettre que j'ai reçue de mon frère est datée de Gênes et du 9e jour de juin, c'est-à-dire 1 mois après le 10 mai. C'était une fausse joie, mon ami. C'est une espérance vaine.
Vous avez l'air fâché, monsieur. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous ait déplu?
Non, Mario, non. Tu es un digne enfant. Et maître Jovelin, que voilà, est un digne ami, de grand talent et de grand cœur. Je me charge de vous faire arriver à Paris sans fatigue et sans misère. Et puis revenez quand il vous plaira. Cette maison sera toujours la vôtre.
Le tableau suivant nous montre Lauriane entourée de ses prétendants. On annonce les jeux, mais Lauriane demande la permission de ne pas y assister. Elle désire rester seule avec Mario qui lui fera la lecture. Tous se retirent, sauf Dalvimar qui essaye de la persuader de lui accorder sa main tout de suite. Mario apparaît à temps, suivi de peu par Jovelin. Lauriane leur demande de rester avec elle. Un échange de propos assez vif entre Dalvimar et Jovelin apprend à Lauriane que ce dernier était un élève de Galilée et qu'il a beaucoup souffert. Elle en est tout émue. Mais toute la compagnie revient et Mario est prié de leur dire la bonne aventure. À Guillaume d'Ars, il annonce une vie heureuse. Au marquis de Bois Doré, grande joie douce. Il sera père avant 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Et aussi une autre joie, comme une vengeance. À Lauriane, qu'un grand danger la menace. Enfin, arrivé à Dalvimar, il se tait après avoir tiré les cartes. Dalvimar exige qu'il dise ce qu'il a vu. Mario finit par lui dire que c'est le châtiment. Au 3e acte, une conversation entre Dalvimar et le valet Clin d'Or nous apprend que le comte veut s'introduire de nuit chez Lauriane. D'autre part, celle-ci, au cours d'un entretien avec Jovelin, apprend qu'il est gentilhomme. Elle le supplie de quitter le château. Celui-ci accepte, ou du moins feint d'accepter, comme il l'explique à Mario. Plus que jamais, il faut protéger Lauriane. Vous allez entendre la scène suivante entre le marquis de Bois Doré et Mario. Ils seront rejoints par Dalvimar et de Beuvre.
N'est-ce pas Jovelin qui s'éloigne, mon petit Mario?
J'avais précisément à m'entendre avec lui. Je donne à Madame Lauriane pour cette dernière soirée le spectacle d'une chasse au flambeau. Et pendant la chasse et pendant le souper qui suivra, il nous faudrait de belles fanfares bien sonnantes.
Jovelin ne pourra pas vous servir en cette occasion, monsieur le marquis. Voilà obligé de quitter le château avant ce soir.
Oh, oh, comme dis-tu là, Mario. Et pourquoi donc ce départ précipité?
Oh, il n'y a pas de notre faute, allez, monseigneur.
J'espère que personne de la maison ne vous a causé de peine.
Oh, nous avons été traités avec une douceur et une amitié sans égale. Ah. Oh, je serais bien ingrat de dire autrement. Et j'ai le cœur gros de penser que je vais quitter des personnes si bonnes et si chères.
Je m'étais aussi attaché à toi, Mario. J'avais pris tout de suite la douce habitude de te voir près de moi, chez moi. Tu étais déjà pour moi ce qu'on appelle, d'un nom si tendre, l'enfant de la maison. Mario, à moins que tu ne sois heureux autre part, reviens vers moi, entends-tu? Reviens vers moi. Nous pourrons nous consoler ensemble. Car si nos âges nous séparent, nos destinées nous rapprochent. Toi qui cherches ta famille, et moi qui ai perdu mon frère et son fils.
Ah ? Vous avez aussi perdu des parents, mon bon monsieur ?
Oui, Mario, oui. Et c'est étrange. Depuis que tu es ici, depuis hier surtout, je te regarde, je te suis des yeux, et chaque fois que je te vois passer, marcher, parler, je m'imagine revoir l'apparition de mon cher frère enfant.
Je ressemble à votre frère, monsieur ?
Oui.
Et votre frère avait un fils ? C'est donc pour ça que vous m'interrogiez hier avec tant d'inquiétude.
Oui. Au moment où je me croyais résigné, j'avais encore entrevu je ne sais quelle espérance.
Une espérance ?
Oh, bien vite évanouie, hélas. J'ai la preuve, Mario. La preuve matérielle que je m'étais trompé.
Ah, vous avez la preuve ?
Oui, mon pauvre petit.
Pardon ? Quelle preuve donc, monsieur ?
Oh, mon Dieu ! La date et le lieu de la mort de ton père ne se rapportent nullement aux dernières nouvelles reçues du frère que je pleure.
La date ? Vous avez dit la date, monsieur ? C'est une différence de date qui vous a montré votre erreur ?
Oui, sans doute.
Oh, excusez-moi, mais si j'osais vous demander...
Parle !
Est-ce que vous auriez, dites-moi, de l'écriture de votre frère ?
J'ai là toutes ces lettres, mes tristes et douces reliques.
Oh, monsieur, je vous en prie, ayez la bonté de m'en faire voir une.
Volontiers, cher petit. Mais ne va pas espérer à ton tour. Tiens, voici sa dernière lettre, celle qui ne m'a pas laissé de doute. Regarde.
Bonté divine.
Qu'as-tu ?
Oh, attendez, je reviens.
Pauvre enfant. Lui aussi, il veut se faire illusion. Mais pour la centième fois, je relis cette date de Gênes, le 9e jour de juin. C'est bien loin des Pyrénées. Et c'est bien après le 10 mai.
Oh, tenez, tenez, prenez, lisez.
Voyons. À monsieur de Luynes, eh bien, c'est la lettre que tu vas porter à Paris.
Oui, oui, mais dedans, il y en a une autre. Une autre que j'ai lue 1000 fois, que je sais par cœur. Tenez, voyez, regardez.
Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce donc que ce papier ainsi taché ?
Oh, ce sont des taches de sang.
Du sang de qui ? Oh, Seigneur, mon Seigneur Dieu qui êtes au ciel, je ne suis pas halluciné. C'est l'écriture, c'est le vrai caractère de mon frère chéri. Mais ce sang... Mario, voyons, où as-tu pris cela ? D'où vient cette lettre ?
On l'a trouvée sur mon père.
Sur ton père ?
Mais lisez donc, monsieur, lisez !
Oui, 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 certainement, je vais lire. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas, moi, je ne peux pas. Lis-toi, mon enfant, lis-toi-même.
Ah oui, et suivez avec vos yeux.
Oui.
Monsieur et bien cher frère, n'ayez point égard à la lettre que vous recevrez de moi après celle-ci et que je vous ai par avance écrite de Gênes à la date du 9e jour du mois prochain. Et voyez-vous ?
Oui, oui, je vois. Mais comment se fait-il ?
Contrairement à vos volontés, je partais pour l'Espagne afin d'y tenter une dernière fois de fléchir les parents de ma femme. Et je voulais, en cas de non-succès, vous dissimuler ce voyage. Sur la route, ma femme vient de recevoir la nouvelle de la mort de son père. Sa mère nous appelle à Madrid et nous pardonne. Et j'espère pouvoir d'ici un mois conduire dans vos bras cette bien-aimée femme et mon cher petit enfant.
Oh, mon petit, mon petit. Oh,
mais il n'y a plus que quelques mots. La mère a déjà rompu pour nous avec le comte Sciarra ce fils de son premier mariage, qui sous couleur de zèle religieux nous persécutait pour s'emparer des grands biens de sa sœur. Et puis, voyez, la lettre a été interrompue. Et il n'y avait pas votre nom dessus. Ma mère, morte de saisissement et de douleur, n'a pu parler dans son délire. Oh. Et seul, perdu sur cette terre, il n'est resté que le petit orphelin.
Orphelin, tu ne l'es plus. Enfant de mon frère, tu es mon enfant. Je l'ai. Le voilà. Il est retrouvé. Mon bien, mon héritier, mon fils, la plus grande joie de ma vie. Ah, oh, comme il est beau. Comme tu es beau. Moi aussi, tu sais, j'étais seul, Mario. Tout seul. Mais à présent, j'ai quelqu'un à aimer. À présent, quelqu'un m'aimera. Mais embrasse-moi donc. Embrasse-moi donc encore. Pense que tu as été 14 ans sans m'embrasser.
Allez, vous pouvez m'aimer de toutes vos forces. Je vous le rendrai bien.
Et ton père? Ton père, il est mort assassiné, Mario. Nous avons donc à trouver et à punir un meurtrier.
Oh, j'ai un indice. Peut-être une preuve.
Et qu'est-ce donc?
Je vous ai dit que l'adversaire de mon père s'était enfui laissant son poignard. Et cette arme de mort, je l'ai. Tenez. La voici.
Oh, Mario, que cela est cruel à regarder. Mais tu as raison, si nous savions à qui appartient cette arme, la preuve serait accablante. Et je me rappelle, tu soupçonnes quelqu'un, tu as cru reconnaître quelqu'un.
Oui.
Oh, parle, parle sans crainte. Je ne suis qu'un vieillard et tu n'es qu'un enfant, mais nous sommes forts, puisque nous sommes deux.
Grâce à Dieu, nous sommes trois, mon père. Car maintenant, Jovelin ne partira pas.
Jovelin est parti.
Je viens de le chasser.
Oh.
Attends, je vais dire qui tu es.
Oh non, non, pas encore. Il ne reste que l'enfant et le vieillard, et s'il allait vous tuer aussi?
Dieu, celui que tu soupçonnes.
Oui, le voilà.
Dalvimar.
Le quatrième acte se passe dans une salle du pavillon de Loriane. Dalvimar, qui reconnaît les lieux, est rejoint par Guillaume et de Beuvre. On attend le marquis qui n'a pas assisté à la chasse au flambeau. Loriane paraît à son tour, elle semble triste. Puis Adamas entre et annonce « Messieurs de Bois Doré ». Le marquis pénètre alors dans la pièce, sans perruque et sans phare, appuyé sur Mario, vêtu de satin blanc. Surprise générale. Le mari s'explique et tous le félicitent, sauf Dalvimar qui est résolu à agir. Loriane, restée seule, renvoie ses femmes. Dalvimar paraît et veut lui arracher la promesse qu'il sera son mari. Elle le chasse, il refuse de sortir. Il va rester, la déshonorer aux yeux de tous, et elle sera bien forcée de l'épouser. Loriane est affolée lorsque les premières notes d'une symphonie éclatent au dehors. Mario entre et annonce à Loriane qu'il a voulu, pour son dernier jour, lui faire une surprise. Dalvimar tire son poignard, mais Jovelin entre à son tour l'épée au côté. Dalvimar laisse tomber son poignard, Mario aussitôt le ramasse. Jovelin se présente alors. Il est le seigneur Giovellino, banni, fugitif et condamné à mort par contumace au tribunal de l'Inquisition. Dalvimar sort un instant. Aussitôt, Loriane supplie Jovelin de partir et elle lui avoue son amour. C'est lui qui sera son époux. Dalvimar revient accompagné du lieutenant de police et veut faire arrêter Jovelin. Le mari, alors, entre et d'accord avec Mario, tend un piège à Dalvimar. Celui-ci va se battre avec Jovelin à l'épée et au poignard. Mario substitue au poignard Dalvimar celui qui tua son père. Au moment de le prendre, Dalvimar tressaille. Le marquis lui dit alors de regarder, car ses initiales sont dessus. S.A. La première et la dernière lettre de son vrai nom, Sciara. Jovelin tue alors Dalvimar en duel et il épousera Loriane.
Telle est cette œuvre pittoresque, très scénique. Les deux grands rôles des beaux messieurs du Bois Doré sont celui de Sylvain, marquis de Bois Doré, et celui de Loriane de Beuvre. Sylvain, marquis de Bois Doré, est une sorte de précieux qui ne respire injure que par l'astrée. Enfin, une belle figure dans une enveloppe extravagante. Ce fut Bocage qui créa le rôle.
L'illustre comédien, beau comme Apollon, selon le mot de Henrienne, s'était, pour la circonstance, grimé en vieux galant du début du règne de Louis XIII. Les joues passées à la céruse et au carmin, le cheveu rare et court. Il portait haut de chausses et chausses du règne précédent, pourpoint et bottes Louis XIII, et sur la tête, le petit chapeau rond d'Henri IV, celui du panache blanc. Comme il était grand et lancé, il avait réussi à réduire sa taille et à donner à sa démarche un air vieux et fatigué. Il achevait donc en homme d'âge, réfléchi et heureux. Cette composition d'extériorisation surpassait encore la première. Sylvain, marquis de Bois Doré, fut l'un des grands rôles du grand Bocage.
Loriane de Beuvre, que les circonstances et l'autorité paternelle force à choisir un nouvel époux, est un être chez qui la générosité le dispute à la grâce et à l'amour, jusqu'à ce que cette générosité se révèle elle-même comme étant de l'amour, uniquement de l'amour. En un mot, l'amour surpassé par l'amour. L'organe de Beuvre, ce fut Mademoiselle Adèle Page. Les méchantes langues disaient de cette comédienne « Joli nom, bien porté, mais toujours second ».
La distribution des beaux messieurs de Bois Doré fut particulièrement riche. Paul Bondoy jouait le rôle de Jovelin, avec un naturel parfait qui lui permettait de se tailler un succès personnel. Mario est un rôle d'enfant, donc un rôle dit travesti. Il avait été confié à Jeanne Hessler.
Sciarra, comte d'Alvimar, farouche espagnol portant le pourpoint du sectaire et le manteau de l'intransigeance, avait été confié à Castellano. Cet acteur d'origine grecque avait une autorité incontestable sur le public. Il suffisait qu'il parût en scène pour que les plus intransigeants semblassent séduits. Les beaux messieurs du Bois Doré sont le type même du mélodrame de bonne compagnie. Rien n'y est outré, ni la violence, ni l'amour, ni la fantaisie. Le rire qu'il provoque n'a pas d'éclat bruyant et les larmes qu'il tire s'arrêtent au coin des paupières. Si l'on veut une demi-teinte, pas assez violente pour la fille de Margot, mais largement suffisante pour les beaux messieurs, les belles dames du Second Empire et les petites filles modèles devenues grandes. N'était-ce pas l'époque d'Octave Feuillet ?
Venons de vous présenter les grands rôles du répertoire mélodramatique français, une émission de Pierre Descaves. Aujourd'hui, les beaux messieurs du Bois Doré, d'après Georges Sand, avec la participation de Philippe Lodenbach, Jacques Castelot, Pierre Delbon, Edith Lauria, Jean-François Calvé et Raymond Girard. Collaboration artistique Blanche Ariel. Réalisation Olivier Dorère.
Cette fiction a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 8 septembre 1961. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.